les vôtres. Prenons soin des autres ensemble. À demain.
Ciao!
Boulevard 102 célèbre ses 10 ans. Il y a 10 ans, Leclerc Communication lançait sa radio 100% conçue à Québec et pour les gens de Québec. Le 22 octobre dès 17h, ne manquez pas l'événement 10 ans de Boulevard au Malcommode. Lancement de la bière La Gravelle, édition 10 ans Boulevard. Et l'intronisation au Radio Hall of Fame du duo Denis et Véro, qui souligne 20 ans de carrière.
20 ans?
Le 22 octobre dès 17h au Malcommode. Musique live avec Big Bob, un paquet de surprises et une soirée mémorable avec toute l'équipe de Boulevard. Venez nous rejoindre, c'est ouvert à tous. Gagnez vos billets VIP en écoutant Boulevard 102.1.
Salut, bonsoir Québec, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer un bon début de soirée, un 60 minutes qui s'entend. Mais ce soir, comme à chaque lundi, c'est avec l'ex-ministre de la Justice, Maître Marc Bellemare, qui sera là, où on s'entretiendra sur des dossiers d'actualité. Sur Québec ce soir, c'est quelques nuages, minimum de 15 degrés. Demain mardi, ce sera généralement ensoleillé. Peut-être des averses qui devraient arriver en après-midi et en soirée. Maximum de 26 pour ce qui est de demain. Mercredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 13. Jeudi, ensoleillé avec un maximum de 12. Et vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 13. Puis je regarde le topo pour ce qui est du week-end. C'est plein soleil. Donc, à part demain, là, il ne pleuvra pas de la semaine. Donc, salutations aux agriculteurs qui avaient peut-être grandement besoin d'eau. Pour le reste, ça va être du soleil, mais demain, vous aurez votre eau, les amis. Le podcast avec Maître Bellemare commence à l'instant. Bonne écoute.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Il est de bellemareavocat.ca et à chaque lundi, on a le plaisir de lui jaser. C'est l'ex-ministre de la Justice, Maître Marc Bellemare. Bonjour, Maître Bellemare.
Bonjour, comment ça va?
Ça va bien. La saison de baseball continue. La saison de hockey va commencer à partir de mercredi pour ce qui est de mon Canadien de Montréal. On a encore des températures d'été, du moins dans les derniers jours. Ça devrait être un peu plus automnal à partir de mercredi, jeudi, dans ce coin-là. Mais jusqu'à maintenant, c'est le fun. On a du sport. C'est le fun.
Oui, on a beaucoup de sport dans le... Puis là, comme tu dis, ça va commencer mercredi. Je pense que c'est contre Toronto que le Canadien va jouer. Alors, c'est une belle saison qui recommence. Mais moi, je vais te dire que ce qui m'intéresse, c'est surtout le baseball. Là, j'ai vu les Blue Jays qui sont en feu. Et depuis 2015, là, qui n'ont pas vraiment été aussi loin en saison. Ils ont failli échapper le championnat à la dernière minute parce qu'ils ont eu une fin de saison anémique. Là. Il y avait beaucoup de difficultés à retrouver le bâton. Mais là, en fin de semaine, là, 13-7 et 10-1, deux victoires très convaincantes. Mm-hmm. Ça cogne, ça n'a aucun bon sens. Mais le baseball, ça ne veut rien dire. Le prochain match, c'est demain, mardi, à New York, ça pourrait changer. Puis... il faut gagner un troisième match pour l'emporter sur les Yankees, mais c'est une belle fin de saison. Moi, j'adore le baseball et je trouve qu'on est gâté de ce temps-là avec New York contre Toronto, là, les deux plus grandes villes des deux pays, là, c'est pas mal intéressant.
Je me souviens du temps, moi, où les oncles et les grands-papas s'endormaient en écoutant une bonne game de baseball sur la radio AM, Maître Bellemare.
Oui, c'est tout un défi. C'est tout un défi de radio de Roger Doucet, qui était à l'époque l'animateur.
Roger Doucet ou Jacques Doucet?
Jacques Doucet, ça se peut. Ça se peut que ce soit Jacques Doucet. Et Claude Raymond, là, qui avait déjà été lanceur dans la Ligue majeure.
Oui, effectivement.
Je crois qu'il s'était rendu jusque-là. Je pense qu'il avait lancé pour les Braves d'Atlanta, notamment. Et ça prend au moins deux personnes. Écoute, un gars tout seul, là, ça n'a pas de bon sens. Là, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? À un moment donné, il y a
le lancer.
Les manches. Hein,
c'est une prise.
En même manche, c'est les mêmes les deux équipes qui passent au bâton.
Oui.
Écoute, c'est long. Ça prend un peu de visuel, puis même avec du visuel, il y a beaucoup de gens. Moi, mon fils, qui a 26 ans, arrête pas de me dire, il rit de moi. T'sais. Il dit, papa, t'es-tu endormi pendant le match? Là, parce que tellement c'est lent. Je me souviens d'être déjà allé avec lui. Il était petit gars, puis j'étais allé voir un match à Chicago entre les Cubs de la Ligue nationale et les White Sox de la Ligue américaine. Dans la même ville, à Chicago, il y a deux équipes. Deux équipes de baseball majeures. Fait que les deux s'affrontaient, je trouvais ça sympathique. Je suis allé voir ça. Écoute, Il s'est quasiment endormi sur son siège. S'il n'avait pas fait un 30 degrés bien sonné avec un soleil très, très puissant, je pense qu'il serait endormi.
Ouais.
Alors voilà.
OK. Mon Canadien, il n'est pas bien ben différent de l'année dernière, mais je pense qu'on va s'être amélioré. On a pris plus d'expérience. On a un autre défenseur qu'on a acquis des Islanders de New York, Noah Dobson aussi, qui s'amène. On a Joe Veleno qui va être sur l'alignement aussi, qui va amener un peu plus de sécurité là, au niveau de la défensive. Donc, on va avoir un Canadien qui va, somme toute, bien performer cette année, j'en suis persuadé. Et que dire de Lane Hudson, qui est juste incroyable à la grosseur et la grandeur qu'il a. Cette année, on va avoir tout un spectacle, je crois.
Oui, c'est à espérer. C'est à espérer parce qu'on est... Il y avait une reconstruction qui nous avait été promise il y a quoi, 4-5 ans. Et là, je pense qu'on a tous les matériaux. Là. Normalement, il reste juste à faire l'assemblage. Ça, c'est
Exact.
Martin Saint-Louis qui va s'en occuper, notre entraîneur chéri.
Oui, exact. Êtes-vous un fan du Canadien? Avez-vous encore vos billets?
Non, j'ai eu des billets de saison, moi, de 2004 à 2018, je crois. Et pendant toutes ces années-là, je voyais 20-22 matchs par année au Centre Bell. Alors, sur semaine, c'était un petit peu plus compliqué. Mais je te dirais là, qu'en 2010, par exemple, là, je pouvais partir de Québec à 4 heures pour aller au Centre Bell, aller voir un match sur semaine, puis j'arrivais à l'heure, 7 heures.
Quand même.
C'était comme ça, c'était possible à l'époque. Mais aujourd'hui, là, faut partir à 2 heures sur semaine si tu veux rentrer sur l'île, trouver ton stationnement, puis manger une petite croûte peut-être en chemin. Alors écoute, c'est à partir de Saint-Hyacinthe, écoute, la vitesse baisse quasiment à 70 km/h. Quand tu rentres à Saint-Hyacinthe à 4 heures, 4 heures et demie l'après-midi, même s'il y a plus de trafic pour les gens qui quittent Montréal que ceux qui rentrent à Montréal, il reste que, il y a beaucoup, beaucoup de voitures, beaucoup d'automobiles, beaucoup de camions. Et le trafic s'est alourdi considérablement, je dirais, là, depuis une quinzaine d'années entre Québec puis Montréal. C'est incroyable. Sur semaine, si tu veux assister à des manifestations sportives, tu as intérêt à partir plus tôt. Bien là, tu es obligé d'amputer ta journée. Si tu as un job, tu travailles, ça devient un peu compliqué de faire tout ça. Le retour, c'est plus facile parce qu'à 10 h, 10 h 30, 11 h, il n'y a pas grand monde qui va te bloquer le chemin, surtout si tu as la chance de quitter le centre Molson précipitamment et que tu as un bon chemin. Moi, j'avais un chemin pour sortir. Là, j'avais mon escalier tout désigné, mon stationnement pas loin, puis j'avais mon système, si tu veux. Là, mon système était monté pour pouvoir quitter Montréal rapidement, mais rentrer en fin d'après-midi à Montréal, sur semaine, c'est une autre paire de manches, là. Ça devient très difficile. Alors non, j'ai plus de billets de saison. Puis on est rentré dans une période, là, la pandémie, on est rentré dans une période au début des années 2020 assez difficile. Le club n'était pas très bon, alors j'ai arrêté d'acheter des billets. Mais on ne sait jamais, ça pourrait me repiquer à un moment donné si les résultats sont au rendez-vous. On ira ensemble.
Ben oui, c'est sûr et certain. Ce serait le genre de sortie qu'on pourrait faire. Maître Bellemare, je ne sais pas si vous suivez le phénomène là, des camionneurs Inc. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler des gens qui sont pas encore, on les appelle aussi les chauffeurs à rabais ou les chauffeurs illégaux qui sont sur nos routes au Québec, proviennent tous des mêmes écoles de conduite dans le secteur de l'Ontario, plus précisément à Brampton. Des gens qui ne sont pas dûment formés pour conduire ces géants de la route sur les routes au Canada, puis à qui on confie quand même des volants. On parle de grosses machines à conduire, là. Il y a énormément d'accidents dans les derniers mois qui ont été rapportés, qui auraient été faits par des chauffeurs à rabais qu'on appelle, des accidents qui auraient même pu être évités. Il y a eu des morts dans ces accidents-là. Et aujourd'hui, il se passait quelque chose de beau. C'est l'industrie du camionnage du Québec qui s'est rassemblée pour monter à Ottawa, pour demander au gouvernement fédéral de sévir contre les entreprises et les chauffeurs qui mettent la sécurité du public en péril. On dit que leur sortie survient 3 jours après qu'un autre accident accident impliquant un semi-remorque qui coûtait la vie à des adultes et à un enfant de 6 ans. Donc, les gens qui sont montés à Ottawa ce matin, l'Association du camionnage du Québec, la Fraternité des constables de contrôle routier du Québec, le Centre de formation du routier de Montréal et la gang de Truck Stop Québec qui se sont présentés. Et dans leurs demandes, on parle d'une dizaine de demandes, dont l'ouverture d'une enquête officielle sur l'exploitation des chauffeurs dans l'industrie du camionnage au pays en vertu de la loi sur le transport routier. Demande également au gouvernement fédéral d'interdire aux immigrants temporaires de travailler comme chauffeurs incorporés dans le secteur et d'établir un registre des entreprises fautives. Ils sont d'avis que celles qui bafouent les règles devraient se faire retirer leur droit d'embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Et voilà. Donc, ça fait partie de leurs 10 demandes. Il faut faire quelque chose parce que les contrôleurs routiers au Québec ne peuvent plus patrouiller en raison d'une décision du tribunal administratif du travail qui mentionne que si les contrôleurs routiers du Québec ne sont pas armés, donc ne devraient pas faire des patrouilles. Donc, ces conducteurs-là, qui sont des conducteurs illégaux, parfois, ils n'ont même pas de permis, bien, ne se font pas intercepter sur nos routes et ça donne des accidents sur nos routes. Donc, faut faire quelque chose. Je parlais justement ce matin avec un des représentants du syndicat des contrôleurs routiers. Et c'était le vice-président du syndicat de mémoire. Et ce qu'il me racontait, c'est qu'il était aucunement question que les patrouilleurs retournent sur la route s'ils n'étaient pas armés. Donc, c'est le ministre Jonathan Julien qui devra prendre la décision à savoir si on arme nos contrôleurs routiers ou non. Et encore là, la formation, c'est de 3 à 4 semaines de ce qu'on comprend là, pour ce qui est des armes à feu. Donc, c'est pas demain que les contrôleurs routiers vont reprendre la route pour empêcher ces camionneurs-là irresponsables qui sont embauchés par des entreprises irresponsables de faire des accidents sur nos routes.
Oui, il y a deux choses là-dedans, Yannick, à mon avis. D'abord, armer les contrôleurs routiers, ça aurait toujours dû être fait. Parce que ces gens-là interceptent sur la route non pas des conducteurs réguliers ou conformes, mais des conducteurs qui montrent une certaine difficulté à conduire ou qui sont peut-être au-delà du poids requis ou qui ont des problèmes ou qui ont peut-être un véhicule qui n'est pas en condition. On sait qu'il y a beaucoup de trafiquants de drogue aussi qui circulent avec des drogues, avec des objets illégaux. Il y a des gens qui transportent des matières dangereuses. Alors, je pense que c'est normal qu'ils soient armés de la même manière qu'un policier est armé. T'sais, si c'est arrêté par un policier de la Sûreté du Québec, en quelque part sur la route, parce qu'ils ont le droit d'intervenir aussi, à ce moment-là, ces gens-là sont armés. Puis s'il y a un risque, parce que tu peux avoir un conducteur violent, tu peux avoir un conducteur qui est pacté, un autre qui est drogué, un autre qui ne parle pas français puis qui s'impatiente parce que son convoi est ralenti. Avoir une arme, je pense que c'est tout à fait normal. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Et là, avec le virage de François Legault sur la loi et l'ordre, parce que là, c'est son dernier discours à l'Assemblée nationale, c'était ça. La loi et l'ordre, il a trouvé un nouveau nanane. Là. Il va s'intéresser à ça tout à coup. Mais je pense que la première chose à faire, c'est de permettre aux contrôleurs routiers d'être armés. La deuxième chose qu'il faut considérer, c'est qu'on a depuis 1978 au Québec, ça va faire bientôt 50 ans, un régime de no-fault, c'est-à-dire un régime qui empêche toute poursuite civile contre un conducteur automobile ou d'un conducteur de camion erratique. Ça veut dire qu'un conducteur ontarien qui arrive ici, qui est tout croche avec son véhicule tout croche, et qui n'est pas formé pour conduire normalement et adéquatement et sécuritairement sur les routes du Québec, qui provoque un carambolage ou un accident. Puis je te parle d'une expérience vécue. Là. Dans la région de Lévis, pas loin de Québec, là, il y a à peu près une quinzaine d'années, il y a un véhicule, un camionneur de l'île du Prince-Édouard qui est arrivé ici. Il n'y avait pas de frein, il y avait un barrage routier, et il a foncé là-dedans, puis il a tué plusieurs personnes. On n'a jamais été capable de le poursuivre au civil. Les familles n'avaient aucun recours en responsabilité civile, de sorte que si l'accident survient au Québec, il n'y a personne qui est susceptible d'être poursuivi au civil pour les dommages causés, que ce soit les dommages matériels ou les dommages corporels, et il y a en plus de ça une indemnisation assurée. Alors, c'est un peu le paradis des pas bons sur la route, et moi j'ai l'impression que les Ontariens en sont conscients, parce que si l'accident survient en Ontario, il y a des possibilités de poursuite civile pour les victimes, alors qu'au Québec, il n'y en a pas. Alors, il est où l'incitatif là, de faire attention, puis d'avoir des conducteurs appropriés, adaptés, compétents, formés sur les routes du Québec à partir du moment où il n'y a aucun recours civil possible? C'est une des raisons, à mon avis. Je ne dis pas que c'est la seule. Je ne dis pas que c'est vraiment déterminant, mais c'est sûr que c'est un contexte, un environnement légal qui est quand même favorable à tous les pas bons qui circulent sur nos routes, qu'ils soient québécois ou d'origine ou qui proviennent de l'extérieur du Québec.
Pensez-vous que, parce que il peut y avoir une stratégie syndicale aussi au travers de ça, il y a quand même une vingtaine, 20 000 $ à peu près de différence entre le salaire d'un contrôleur routier puis d'un patrouilleur de la Sûreté du Québec. À partir du moment où les contrôleurs routiers obtiennent une arme, ce serait tout à fait légitime pour eux de demander le même salaire et le même traitement que les policiers de la Sûreté du Québec, parce que là, il n'y aura plus aucune différence entre les deux, si ce n'est que chacun devra garder sa chasse gardée. Donc, les policiers de la Sûreté du Québec s'occupent des véhicules. Puis pour ce qui est des contrôleurs routiers, bien, en général, c'est le camion lourd. Je comprends qu'ils peuvent intervenir dans certaines situations, mais ce serait plus pour les véhicules lourds. C'est sûr ça va être légitime de demander l'égalité des salaires avec les policiers de la Sûreté du Québec, là.
Oui, mais les policiers sont quand même plus polyvalents, là, pour intervenir dans un cas de violence conjugale à domicile ou pour un cas de vol à main armée dans un établissement financier ou pour un cas de violence ou de fraude. Les policiers peuvent intervenir en dehors du réseau routier, alors que les contrôleurs routiers, bien, doivent se limiter au réseau routier. Je pense que les policiers sont quand même plus polyvalents. De ce fait, probablement qu'ils pourraient avoir un revenu plus élevé. J'ai la difficulté à penser qu'on puisse donner un contrôleur routier dont la mission se limite au réseau routier puis aux automobiles les mêmes pouvoirs qu'un policier qui peut intervenir en toutes circonstances sur les réseaux routiers comme à l'extérieur. J'ai l'impression que le gouvernement a là un argument pour assurer une certaine différence salariale, là.
Oui, c'est parce que c'est 20 000 $, mais c'est parce que les contrôleurs routiers, de ce qu'on comprend, peuvent faire certains actes que les policiers ne peuvent pas faire. C'est-à-dire quand ils soupçonnent qu'il pourrait y avoir de la marchandise illégale dans une remorque, exemple, n'ont pas besoin de mandat et peuvent faire ouvrir la remorque et fouiller à l'intérieur, ce que les policiers ne peuvent pas faire. Fait que, tu sais, ils ont chacun leur chasse gardée, je le comprends. Mais à partir du moment, parce que je sais que les contrôleurs routiers ont déjà été anciennement, je pense que années 80, années 70, ils étaient avec la police à l'époque, jusqu'à
Il y
temps
avait une
qu'on décide
qualité, hein?
de séparer ça, là. Donc moi,
Oui,
j'ai
c'est ça.
l'impression qu'il y aura une demande d'argent aux prochaines négociations, là. Mais cela dit,
Ouais.
si c'est pour la sécurité des contrôleurs routiers,
Probablement, mais
je me souviens pas
comme
d'un
je disais,
contrôleur routier qui était attaqué, là.
dans le contexte de la loi et l'ordre, si le gouvernement veut marquer des points, il va devoir peut-être affecter une certaine portion de son budget au niveau de la sécurité sur les routes, parce qu'effectivement, il y a des accidents qui sont causés par ça. Il faut comprendre, Yannick, que les accidents de la route, là, ça coûte de l'argent aux Québécois aussi, là. C'est la SAC qui assure l'indemnisation des victimes, mais ça peut coûter des millions de dollars, là, en termes de conséquences. Absence du travail, perte d'emploi, appauvrissement, séparation. Donc, ça a des conséquences sociales qui ont aussi des impacts économiques. Et on paye pour tout ça. Alors, on a un choix à faire. Est-ce qu'on fait de la prévention à travers tous ces gens-là qui assurent le respect de nos lois et la sécurité sur le réseau routier, ou bien si on attend qu'il y ait des accidents, puis après ça, on paye autrement en termes de dommages corporels et de dommages matériels? Moi, je pense qu'il faut faire de la prévention, puis il faut s'intéresser à ces gens-là parce qu'on le voit sur la route, on voit qu'il y a un certain laisser-aller. Il y a beaucoup de gens qui. Il y a moins de surveillance, il y a beaucoup de gens qui vont vite, il y a beaucoup de gens qui vont tout croche, il y a des camions qui n'ont pas d'affaires chez nous et qui devraient être interceptés. Puis moi, je pense qu'on s'aperçoit là qu'il y a un certain laisser-aller sur la route et ça prend quand même, avec l'augmentation du nombre de conducteurs, l'augmentation du nombre de véhicules et l'augmentation aussi de nouveaux arrivants qui empruntent nos routes et qui ne sont pas toujours familiers avec le Code de la sécurité routière du Québec. Alors, je pense qu'il est temps que le gouvernement s'occupe de ça. Puis qui mettent de l'argent du côté des contrôleurs routiers rapidement. Je pense qu'ils ont prouvé leur pertinence.
Maître Bellemare, je veux parler d'un sujet avec vous. J'ai vu ça passer en fin de semaine. C'était dans les médias de Québécois. Les élections municipales qui sont un peu partout à la grandeur du Québec, on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je sais qu'à Québec, ça a brassé pas mal. Sur les réseaux sociaux, pour Valérie Marchand, je peux vous dire qu'à Montréal, sur les réseaux sociaux, elle passait au cash comme pas possible. Moi, j'ai pas de misère quand quelqu'un critique les actes du maire ou de la mairesse qui est en place et mentionne, bon, moi, j'aurais fait ça de telle ou telle façon, ou ce qu'elle a fait là, ce qu'elle a fait, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais là, c'est des commentaires qui sont hyper personnels, dirigés vers nos échevins. Je regardais dans le secteur de Québec, on s'est attaqué à la conjointe de Bruno Marchand. C'est une jungle, ça, les élections municipales. Je me souviens pas d'avoir vu ça au provincial ou encore au fédéral, quoi qu'on ait entendu des vertes et des pommures pour ce qui est de Justin Trudeau, mais les élections municipales au Québec, ça brasse, là.
Oui, oui. Internet est devenu une espèce d'asile à ciel ouvert. Là. C'est Richard Martineau qui disait ça, une belle expression, puis il a tout à fait raison. Les réseaux sociaux, n'importe qui va là pour diffuser des faussetés, des mensonges, des propos agressifs, des fraudes amoureuses, des attaques virulentes contre des candidats dans toute forme d'élection. C'est devenu extrêmement difficile. Puis on a beau dire qu'on ne lit pas ces affaires-là, il reste que quand tu es en campagne électorale, ben, tu es très soucieux de voir venir les coups, de regarder un petit peu ce qui se dit, qu'est-ce qui se passe dans la sphère publique, quels sont les commentaires qui sont faits par un et par l'autre. Et tu n'as pas le choix que d'aller sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu l'humeur de la population, quoique les commentaires ne sont pas toujours pertinents puis très utiles. Mais c'est sûr que ça joue. Et moi, je pense que c'est probablement la principale raison pour laquelle il y a une forme de désaffection par rapport aux élections municipales. Même dans les grandes villes, on s'aperçoit que Bruno Marchand a fait une sortie, Valérie Plante aussi par rapport à ça. Alors, eux autres sont excédés, mais dans les villages, dans les petites municipalités, c'est pas bien, bien mieux, Yannick, là. Parce que quand tu as un village de 2-3 000 personnes, puis il y a quelqu'un qui n'est pas content de telle entrée ou telle sortie ou de tel parc ou de tel service municipal, que ce soit les vidanges, les poubelles, que ce soit les parcs, l'aménagement, le déneigement, bien, les élus en prennent pour leur rhume. Et c'est bien malheureux, mais il n'y a pas de moyen d'empêcher ça. Tant que tu as les réseaux sociaux, puis là, il n'y a aucune contrainte. Là, on sait que depuis l'arrivée de Donald Trump, il y a eu comme une espèce d'ouverture au nom d'une certaine liberté d'expression qui permet à tous les agressifs et tous les violents de la société de se faire entendre sur le même pied quasiment que le maire lui-même. Là. Alors oui, c'est un problème, effectivement. Puis je ne sais pas comment on va être capable de venir à bout de ça parce qu'Internet, c'est une invention formidable, c'est sûr. Les réseaux sociaux aussi, ça peut être très utile. Mais c'est comme un marteau. Hein? Un marteau, c'est un outil. Tu peux t'en servir à bon escient pour planter un clou, comme tu peux t'en servir pour assommer ton voisin. T'sais. Alors, Internet, c'est la même affaire. Alors, c'est un outil, mais qui peut être utilisé à mauvais escient. Puis, c'est très rare qu'on va avoir des commentaires favorables. Tu remarqueras ça sur les réseaux sociaux, des gens qui vont dire « Ah, bravo, M. Marchand, bravo, Mme Plante, vous avez fait un excellent travail. » C'est assez rare. Les gens qui sont favorables sont en général assez silencieux. Pour la simple raison qu'ils sont satisfaits du travail effectué. C'est surtout ceux qui ne sont pas contents, ceux qui veulent faire du trouble, qui vont envoyer des remarques et des commentaires hostiles. Et peut-être la police devrait s'en mêler un petit peu plus, mais j'ai l'impression qu'ils ne s'en servent pas très bien. On avait déjà fait une chronique sur un gars qui avait agressé verbalement Sophie Durocher, la chroniqueur à Montréal. Je ne sais pas si tu t'en souviens. L'individu avait été condamné ou il avait plaidé coupable plutôt sur une... Non, il avait été condamné sur une... je pense que c'était des menaces de mort ou des menaces sur Internet et de la violence, etc. Il y avait eu deux crimes pour lesquels il avait été condamné parce qu'il avait plaidé non coupable. Puis quand ça a été le temps de donner une peine, bien, le juge a dit absolution conditionnelle puis il s'en est tiré sans casier judiciaire. Alors, peut-être qu'on devrait sévir un petit peu plus contre certains commentaires vraiment, vraiment agressifs et déplacés, parce que des menaces, c'est pas accepté, puis c'est un crime au sens du Code criminel canadien, mais on a l'impression que du côté de la sécurité publique, la police, le DPCP, c'est pas des dossiers prioritaires.
Ben, ça semble être extrêmement difficile des fois de retrouver qui est derrière tel ou tel compte. Là. Je sais que ça s'appelle une clause Norwich. Là. Quand c'est criminel, je pense qu'ils n'ont pas nécessairement ben de misère à remonter jusqu'à la personne. Mais quand c'est au niveau quand c'est une entreprise privée qui veut savoir, exemple, qui est derrière ce compte-là, ben c'est plus compliqué. On doit aller en cours, on doit demander une clause Norwich de mémoire. Et par la suite, si c'est accepté, ben là, on doit communiquer avec Facebook ou encore Twitter pour avoir les adresses IP. Puis finalement, ben, avoir l'adresse de ces individus-là. Peut-être qu'un jour, ils nous faciliteront la tâche pour qu'on les retrouve plus facilement. Et si ces gens-là ont à répondre de leurs actes devant un tribunal, ben, ils auront à payer le montant qu'ils devront payer pour tenter de réparer leurs erreurs.
Je comprends que c'est difficile, Yannick, mais sur le lot de propos violents et de menaces qui existent, imagine-toi demain matin s'il y a trois ou quatre cocos qui sont accusés au criminel là, d'avoir fait des menaces de mort ou des propos diffamatoires ou des propos haineux. Trois, quatre, là. Une coupe à Montréal puis une coupe à Québec. Là. C'est des médias, ça sort puis ça a un effet. On appelle ça l'exemplarité, on appelle ça de trouver des cas qui vont être menés devant le tribunal avec des condamnations, ça pourrait certainement refroidir les gens, mais on n'entend jamais parler de ça. Quand on entend parler, bien, il y a des acquittements ou des peines bonbons. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas de système répressif par rapport à cette violence-là et elle est en pleine progression.
Donc, voilà pour ce qui est des élections municipales. Calmons-nous sur les réseaux sociaux, les amis, calmons-nous. Au niveau provincial, avez-vous été surpris de voir les sondages? PSPP qui est en tête des sondages, on ne sait pas trop pourquoi, mais ce qu'on comprend, c'est que les gens qui étaient pour la Coalition Avenir Québec sont peut-être un peu essoufflés. De la Coalition Avenir Québec ont décidé de transférer de l'autre côté avec le Parti québécois. Mais François Legault qui tombe à 16 % dans les sondages, très près du chef conservateur Éric Duhaime, c'est quand même assez incroyable là, pour un parti qui est au pouvoir depuis quelques années. Je pense qu'on est en train d'assister à un grand essoufflement et François Legault n'aura pas d'autre choix que de quitter. Parce que réanimer un cheval mort, ça va être extrêmement difficile.
Oui, exactement. Il y avait, comme tu sais, M. Legault a fait un espèce de petit virage à droite là, en disant là, on va s'attaquer aux enflures syndicales, on va couper dans le gras dans la fonction publique, on va s'occuper de la loi et l'ordre. Il y avait hier un excellent papier de Rémi Nadeau dans le Journal de Québec, le Journal de Montréal, qui regardait un peu la position des autres partis sur les éventuels régimes maigres dans le gouvernement québécois. Ça s'appelle « Le PQ veut réduire le nombre de fonctionnaires, mais propose aussi des ajouts de mandats et de bureaux. » Alors, j'ai hâte de voir un petit peu en 2026, là, parce que ça va être certainement le cas, comment les libéraux et les péquistes vont se diriger par rapport à cet intérêt, cette préoccupation des Québécois par rapport au gouvernement obèse et tentaculaire. Parce que de tout temps, au moins depuis Jean Charest, il y a 25 ans ou à peu près, les Québécois sont préoccupés par la grosseur de la bureaucratie québécoise. Ottawa aussi, mais Québec. Alors certainement que ça va être à l'agenda à la prochaine élection générale. Et la semaine passée, la chef parlementaire des libéraux, Mme Risky, disait que Legault s'est engagé au moment de l'élection initiale en 2018 à couper 5 000 postes dans la fonction publique. On sait qu'il en a rajouté 10 000, donc il est 15 000 de plus que sa promesse. Et M. Nadeau aussi, dans un excellent papier, nous dit, bien écoutez, il y a eu, les péquistes proposent un certain nombre de création de postes. Par exemple, il dit que le PQ a proposé la création d'un ministère des aînés. Mais ça, c'est des fonctionnaires. Un bureau de protection des consommateurs, c'est des fonctionnaires. Une agence vouée à la protection animale et un directeur parlementaire du budget, comme on a à Ottawa. Mais c'est toutes des promesses, des propositions qui ont été faites par le parti de Paul Saint-Pierre Plamondon au fil des années, qui impliquent non pas une réduction de la taille de l'État, mais une augmentation des structures, une augmentation des services. Alors, c'est facile de le dire comme ça, à pied levé, mais à un moment donné, quand tu fais un constat d'ensemble de la position du PQ, on a l'impression que ça va davantage dans le sens de grossir le gouvernement plutôt que d'en réduire la taille. Alors, c'est intéressant de voir ça, comment ils vont se diriger, parce que je pense que M. Legault a raison quand il parle de réduire la taille de l'État. Sa crédibilité est bien sûr plus ou moins bonne sur ce sujet-là, parce qu'il l'avait déjà proposé.
En 2017, c'est exactement les mêmes promesses de 2017.
Ça veut pas dire que c'est pas intéressant, puis ça explique probablement le fait qu'Éric Duhaime, avec le Parti conservateur du Québec, a pris 4 ou 5 points de plus au cours des dernières semaines. C'est parce que Legault est en train de donner une légitimité aux propositions d'Éric Duhaime, qui lui a toujours été très ferme sur la question de la taille de l'État,
exact.
De réduire la fonction publique de 15 ou 20 %
Mais Maître alors, Bellemare, ça sert à quoi des élections? Ça sert à quoi des promesses électorales si ce n'est pas pour être tenu? Parce que moi, quand je regarde un parti, moi, je ne suis pas vendu à aucun parti, mais quand je regarde un parti, je regarde les promesses, puis je me dis, ah, ben je pourrais peut-être élire ce parti-là pour qu'il soit pour les 4 prochaines années au gouvernement. Là, ce qu'on voit dans des partis municipaux, c'est des promesses, sachant très bien que la plupart sont irréalisables, mais on fait des promesses, que ce soit au municipal, au provincial, puis au fédéral. Soit dit en passant, j'exclus Justin Trudeau parce qu'il avait été élu en promettant de faire des déficits et il a très bien réussi avec ses fameux déficits. Mais ça sert à quoi de faire des promesses si ce n'est pas pour être tenu, t'sais? Puis je trouve qu'un mandat de 4 ans, quand ça a été élu sur la base de mensonges, de fausses promesses, je trouve que c'est long. On devrait avoir le droit au Québec, après 2 ans, de rappeler le gouvernement qu'il avait été élu pour ces promesses-là et que 50 à 60 % des promesses, après 2 ans, devraient être remplies. Sinon, on devrait tout simplement retourner en élection.
Oui, oui. Puis tu sais, Yannick, on dit qu'on vit en démocratie, mais combien de fois dans ta vie tu vas voter? Admettons, là, tu regardes ça, on commence à voter à 18 ans, tu as une espérance de vie, disons, jusqu'à 78, 80... Ça veut dire 78 moins 18, ça fait 60 ans. Divisé par 4 pour un mandat de 4 ans, ça veut dire que tu vas voter quoi? Une quinzaine d'années peut-être dans ta vie.
Mm-hmm.
15 fois, tu vas avoir l'opportunité de mettre une croix sur un bulletin de vote au Québec, puis la même chose à Ottawa. C'est pas beaucoup, là. Quand tu dis qu'à 15 reprises, dans une vie complète qui est assez longue, tu vas avoir l'opportunité de mettre ta croix sur un bulletin de vote. Et combien de fois tu t'es fait voler ton élection? Combien de fois, par exemple, en 2003, Jean Charest disait qu'il allait réduire les impôts de 5 milliards. On pensait qu'il allait réduire la taille de l'État. Il ne l'a pas fait. M. Legault, il ne l'a pas fait non plus. Lucien Bouchard est élu en 98. Il ne parle pas pantoute en campagne électorale des fusions municipales. Il arrive là, il donne à Louise Arel le mandat de faire des fusions municipales au Québec. Alors, des fusions dans de multiples municipalités, des fusions forcées qui ont été faites sans aucun mandat électoral. Certaines fusions ont été démanchées après l'élection de Charest en 2003. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, les partis politiques qui vont être élus avec des majorités vont faire ce qu'ils ont dit qu'ils ne feraient pas et ne feront pas ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Alors, à l'inverse, que ce soit l'un ou l'autre, dans les deux cas, on est trahi par rapport à notre volonté politique. On dit qu'on est en démocratie, mais on a l'impression souvent de se faire voler l'élection puis de se faire voler une promesse forte qu'on a mis au cœur de notre vote. Alors, oui, c'est un peu un problème qu'on a. Et,
parce que je parlais avec la vice...
On fait confiance à quelqu'un, mais on est désabusé. Puis c'est pour ça que les gens vont moins voter. Puis c'est pour ça que les gens sont écœurés des institutions aussi.
Ouais. La semaine dernière, je parlais avec l'ex-vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, qui est rendue aux affaires municipales maintenant. Elle va avoir beaucoup de tâches, Mme Guilbeault, pour ce qui est des prochaines semaines, parce qu'avec les maires, elle ne s'entendait pas nécessairement bien, principalement pour ce qui est du maire de Québec. Et je lui ai posé comme question, mais parce que là, vous arrivez avec plein de promesses, François Legault, puis elle aussi, de son côté, a fait des promesses pour le prochain mandat, puis elle veut changer les choses très rapidement. Mais c'est tout le temps quand les sondages vont pas bien ou quand ils sont dans leur troisième année de mandat puis ils veulent être réélus qu'on a l'impression que les politiciens commencent à vraiment bien faire leur travail. C'est-tu une impression qu'on a? Mais en réalité, ils font bien leur travail à toutes les années. J'ai tout le temps l'impression qu'après 3 ans, ils disent « Ah, ben là, on a compris les gens, on va les écouter, puis dans la dernière année, on va essayer de donner des nananes, puis on va essayer d'améliorer les choses. »
Ouais, mais il est un peu tard. Moi, je pense que les carottes sont cuites pour ce qui est de la CAQ par rapport à ça. Et je pense que les gens regardent ailleurs et je ne pense pas que ça va s'améliorer pour eux. J'ai été un petit peu surpris de voir quand même que le virage à droite de François Legault profitait au Parti conservateur. Il y a de quoi de réjouissant là-dedans parce que on a vu Mark Carney à Ottawa aller voler les promesses de M. Poilievre, le Parti conservateur, sur l'augmentation du budget militaire, la réduction une espèce de petit virage à droite du côté woke, là, du côté des engagements de M. Trudeau, sa philosophie générale qui était de tenir compte de petites minorités, particulièrement dans le domaine social, dans le domaine des Autochtones, par exemple. Alors, Carney a fait un virage à droite, mais Carney avait la crédibilité pour le faire, à travers, bien sûr, la menace que représentait le gouvernement de Donald Trump par rapport au Canada, les tarifs, etc. Donc, il a bien tombé, mais il y avait la crédibilité. C'est un nouveau leader, ce que n'est pas M. Legault. M. Legault n'est pas un nouveau leader, c'est un ancien leader. Ça fait 7 ans qu'on y voit à face. Ça fait 7 ans qu'on le voit parler, qu'on l'entend. Et moi, je pense qu'il n'y a pas la crédibilité que M. Carney a eue quand il est arrivé là, au début 2025 à la tête du Canada. Et c'est peut-être ce déficit de crédibilité conjugué à son virage à droite qui fait que M. Duhaime, lui, a la crédibilité du virage à droite parce qu'il a toujours été à droite. Alors ça me réjouit un petit peu parce que je me dis au moins les gens sont reconnaissants par rapport à l'authenticité, à la crédibilité d'un chef. Et c'est pas parce que tu fais une promesse que tu as nécessairement la crédibilité pour la tenir. Alors, le virage à droite profite à Éric Duhaime parce qu'Éric Duhaime est sur cette position-là depuis longtemps et lui a, je pense, la crédibilité face aux électeurs pour éventuellement plaider de toute la question de la réduction de la taille de l'État. Et c'est un thème qui risque de lui demeurer propre jusqu'à l'élection prochaine. Ça pourrait causer des surprises en 2026 parce que le Parti québécois, le Parti libéral ne sont pas du tout dans la réduction de la taille de l'État. Alors, Legault y arrive par opportuniste parce qu'il sait qu'il y a des votes là, mais ça pourrait profiter à M. Duhaime là, de façon surprenante au cours des mois qui suivent.
Effectivement. Est-ce que Legault doit partir, oui ou non?
Ben, moi, je pense que c'est une question de temps. Ça fait un certain temps que je le dis. Je pense que si M. Legault reste en poste, il va priver son parti d'une campagne au leadership, il va priver son parti d'un certain renouveau. Un peu plus d'oxygène, un peu plus de sang neuf, je pense qu'il risque de vivre une fin de mandat assez difficile, un peu comme M. Harper l'a vécu en 2015, parce qu'il est resté en place, malgré le fait que les sondages n'étaient pas bons, puis il a été battu. Si tu veux quitter, puis assurer un renouvellement de ton parti, un peu plus d'oxygène, un peu plus de sang neuf, des débats d'idées, l'élection d'un nouveau chef, ça prend du temps, puis il peut pas se permettre de dépasser l'hiver prochain, maximum printemps, parce qu'il y a des élections en novembre 2026. Faire tout ça prend du temps, et ça risque d'être difficile de le faire en si peu de temps si jamais il décide de pas quitter. Moi, d'après moi, il va annoncer son départ quelque part autour des fêtes.
Oui, hein,
J'ai
c'est ce que
l'impression.
je pense. Début du mois de décembre, on va
Parce qu'il n'y a
commencer
rien
à
qui
s'aligner
fait, là.
là-dessus.
Son discours à l'Assemblée nationale n'a pas levé. Son remaniement ministériel n'a pas levé, la reprise de la session n'a pas levé, puis sondage après sondage, ça ne marche pas. Puis là, ça va commencer à grenouiller dans le parti, là, parce que là, les députés, eux autres, ils se demandent ce qui va advenir de leur job en novembre 2026. C'est certain qu'il doit y avoir une grosse pression sur lui. La pression des sondages, c'est une chose, mais la pression à l'interne, ça risque d'être plutôt insupportable au fur et à mesure que l'automne va avancer, là.
OK, on est en onde actuellement avec Maître Marc Bellemare, comme à chaque lundi. Maître Bellemare est chez bellemareavocat.ca pour le rejoindre. Les spécialistes des dossiers SAAC, IVAC, CNESST, on fait une courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Le duo Gravel-Marceau est de retour maintenant à 7h45 pour traiter des gros dossiers du jour. Votre nouveau rendez-vous incontournable du matin. Le Pit Stop. Le Pit Stop. Tout ce qu'il faut savoir sur Québec... Puis même dans le monde. Ah! Le Pit Stop 7h45 à Boulevard 102.1. Maintenant 100% parlé en semaine.
Avant d'acheter une auto, tu demandes l'avis de ton mécano. Puis avant de signer ton hypothèque, ben, tu demandes à un courtier de chez MRL. MRL courtier hypothèque.ca.
Si tu vas à l'événement de réduction d'inventaire d'équipements neufs de JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, toi aussi, tu pourrais siffler en travaillant.
Oui, allô?
Pierre-Luc, mon cousin préféré, j'ai reçu ton courriel.
Quel courriel?
Ben, les offres que tu me fais, parce qu'on est dans la même famille, là, sur le Taos, l'ID4, la Jetta, l'ID-Buzz.
Ah, oh, le Volksfest. Ouais, mais ça, c'est pour tout le monde.
Hé, hey, des offres à 0% sur les modèles sélectionnés, le Bonnie Volksfest, t'es fou!
Oui, mais t'as compris que c'était pas juste pour toi, là, c'est vrai.
OK, Pierre-Luc, si tu le dis.
Ouais, ben, je te le dis, là.
Volksfest, c'est pour tout le monde. Profitez d'offres à partir de 0% et obtenez jusqu'à 1 000 $ en Bonnie Volksfest sur certains modèles. Faites vite, les offres se terminent le 31 octobre. Sur approbation du crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Volkswagen.
Vous voyez flou? Pas besoin d'un miracle, juste de Scoop Vision. Apportez votre prescription, économisez et repartez parfois avec vos lunettes en une heure. Des montures de grande marque, des prix web et la qualité d'une vraie lunetterie. Scoop Vision, enfin clair, mais pour pas trop cher. ScoopVision.ca.
Ne manquez pas la grande vente Milwaukee d'Outils Plus, le plus gros événement d'outillage à Québec, jeudi 9 octobre au Centre de Foire. Plus d'un million d'inventaires d'outils Milwaukee a écoulé, jusqu'à 60 % de rabais. Outils extérieurs, sans fil, batterie, Packard, tout y est à des prix jamais vus. Les 100 premiers clients reçoivent 100 $ en cadeau à l'achat de 250 $. Démo, essais d'outils, entrée et stationnement gratuits. La grande vente Milwaukee, une seule journée, le 9 octobre de 9 à 21h au Centre de Foire de Québec.
Plongez dans 888casino.net. Conçu pour jouir des machines à sous primées. Pour découvrir un monde de plaisir. C'est fait pour divertir. Pour se délecter de la roulette. Super!
C'est juste pour jouer.
Ouais, ça marche! 888casino.net. Fait pour jouer.
19 plus. Jeu gratuit uniquement. Jouer de façon responsable.
Le système de santé craque. Il manque plus de 2000 médecins de famille au Québec. Les ressources promises n'arrivent pas. Les équipes s'épuisent. On impose des réformes en niant les faits. On négocie à coups de projets de loi. Et les patients sont les premiers à en payer le prix.
Réformer la santé, ça doit se faire avec les médecins de famille, pas contre eux. Nous aussi, on veut que ça change. Un message des médecins de famille du Québec.
Une sortie de famille à moitié prix? Ah! Un souper romantique à rabais.
Ah oui, mais ça dans le panier avec les autres offres.
Cet automne, ne ramassez pas juste les pommes et les citrouilles. Cueillez aussi les meilleures offres sur Mercado.fm.
Obtenez un accès au bain d'une valeur de 79 $ à 39 $ chez Énergie Spa Nordique. Et un chèque cadeau d'une valeur de 100 $ à 50 $ chez Benny et compagnie.
Mercado.fm, un verger de rabais.
Jusqu'au 31 octobre, économisez gros chez Pièces d'auto économiques. Obtenez 10 % de rabais sur les disques de frein de première qualité Brake Max et 15 % sur les plaquettes de frein Bosch. Pièces d'auto économiques, c'est le leader au Québec avec 9 magasins et 5 centres de distribution. Pièceséconomique.com.
Envie de changer de carrière?
Vos ados hésitent sur leur programme d'études?
Des questions sur le marché du travail?
Ne manquez pas la 31e édition du Salon Carrière Formation de Québec au Centre de Foire Expocité. Explorez, avec près de 150 exposants, toutes les possibilités pour votre avenir professionnel et vos études dans une expérience immersive et interactive.
Venez sans frais, des opportunités à saisir, un avenir à construire.
On vous attend du 16 au 18 octobre.
Rendez-vous sur saloncarrièreformation.com. Nine Inch Nails. En spectacle au Centre Bell, le 16 février. Billets en vente vendredi le 8 octobre sur nin.com. Nine Inch Nails en spectacle à Montréal. Tournée Peel It Back 2026.
C'est le grand essai routier Kia à votre centre d'inspiration électrique Kia avec jeux gonflables pour vos enfants. Tous nos modèles électriques sont à votre disposition pour des essais. Ici, on ne vend pas de véhicules. On informe et on explique. On vous attend au centre d'inspiration électrique Kia sur Cyril-Duquet.
Con en commun, un entrepreneur, quelqu'un qui a un grand terrain, puis un agriculteur. Ben c'est tout du monde qui aime ça siffler en travaillant fort. Et pour travailler fort, ça te prend des équipements à la hauteur de tes attentes. Ça tombe bien, JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, tient actuellement un événement de réduction d'inventaire neuf. Ils font aussi un événement d'équipements usagés. Ils ont toutes les marques, des John Deere, des bleus, des jaunes, des rouges, ils ont même des oranges. Fait que si tu trouves pas là, ça veut peut-être dire que tu sais pas siffler. Pour tous les détails, va sur jldlagu.com.
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de shorts. Puis
puis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Maître Marc Bellemare est avec nous comme à chaque lundi. C'est un plaisir d'être avec vous chaque lundi, Maître Bellemare. Est-ce que vous allez faire la saison au complet avec nous autres, même quand il y aura des matchs du Canadien?
Ah, ben oui, absolument. On va être là tout le temps. En tout cas, à moins qu'il y ait des congés. Quand il y a des congés de 3 jours, souvent, on lève le pied un peu. Mais c'est toujours agréable pour moi de te parler à chaque semaine. Ça fait quand même des années qu'on fait ça. On touche la justice, la sécurité publique, beaucoup, l'actualité politique. Alors, c'est un beau mélange. Hein. On est capable de parler de sujets, je pense bien, là, si on regarde un petit peu nos cotes d'écoute, là, qui sont relativement réjouissants pour nos auditeurs.
Maître Bellemare, je ne veux pas faire d'âgisme, là, mais en même temps, j'en faisais dans le temps par rapport au prochain dossier qu'on va aborder. Et là, je me rends compte que ce n'est pas une question d'âge se faire avoir sur Internet par des faux profils. Parce que du temps où Internet a débuté dans nos vies, parce que pour les jeunes qui nous écoutent, oui, avant, il n'y avait pas d'Internet. Là, maintenant, il y en a. Bien, il y avait une génération de gens qui n'étaient pas nés avec ça, qui se sont ramassés à 60 ans, 70 ans avec l'Internet qui arrivait. Et là, tout d'un coup, il y avait un jeune milliardaire qui habitait au Soudan qui voulait avoir accès à sa fortune et qui arrivait dans ma boîte courriel en me disant « Yann, c'est toi que j'ai choisi pour partager ma fortune, mes 500 milliards de dollars. Par contre, pour débloquer mon compte de 500 milliards de dollars, j'ai besoin de 5 000 $. Et si tu m'aides, ben sache que je vais te récompenser avec la moitié de ma fortune. » Il y a plein de gens qui se sont fait avoir avec ce type de fraude-là, Maître Bellemare. Et dans les dernières années, Maître Bellemare, on a vu des gens qui s'appropriaient les comptes d'artistes connus ou peut-être un peu moins connus. Dans le cas qu'on va parler, on parle de Grand Corps Malade, ce poète des temps modernes qui aurait tenté d'approcher une jeune femme dans l'âge que je vous dirais peut-être... Elle s'appelle Stéphanie, fait qu'elle doit être autour de 40 ans à peu près. Et Stéphanie était persuadée de parler avec Grand Corps Malade, ce grand artiste.
32 000 piastres, Yannick. Moi, j'en reviens pas, je te jure, là, je suis... Tu t'en vas à l'épicerie, puis il y a quelqu'un qui vient te demander 32 000 piastres, bien sûr que tu ne lui donneras pas. Pourquoi tu le ferais sur Internet? Pourquoi tu le ferais parce que la personne t'a approché? Mais moi, je n'ai pas vu tout le détail. J'ai vu la couverture que Radio-Canada en a fait notamment, et il semble que ce soit un chef-d'œuvre de fraude, de montage. On parle de photos, on parle de vidéos, et on parle de notes vocales truquées. Alors ça veut dire que même sa voix a été utilisée et à partir de sa voix, on a réussi à constituer une espèce de message vocal personnalisé pour cette femme-là. Et on parle d'un faux grand corps malade, là, attention au branding, là, grand corps malade, disons que c'est assez poche comme nom, mais ça existe. Et effectivement, c'est un Français très connu. Et qui a écrit des textes fantastiques, et etc. Et Stéphanie s'est fait prendre dans cette affaire-là avec... Ça ne s'est pas fait dans une seule journée, mais il envoyait des messages poétiques, très bien écrits d'ailleurs, et c'est une fraude authentique, et ça a coûté 30 000 $. Mais parce qu'à partir du moment, quand tu reçois des messages poétiques, ça va, tu peux les lire, tu peux les enregistrer, tu peux les imprimer, c'est merveilleux. Mais là, quand le gars... Grand Corps Malade, qui est supposé être un homme connu, qui est supposé avoir quelques piastres dans son compte de banque, quand il commence à te demander de l'argent parce que un de ses enfants est pogné en quelque part puis est pris dans des conditions difficiles, quand tu commences à avoir des demandes d'argent avec une personne, de la part d'une personne que tu n'as jamais vue, si célèbre soit-elle, mais là, tu arrêtes de communiquer parce que c'est sûr que c'est une arnaque. Je ne comprends pas comment des gens peuvent aller jusqu'à mettre 30 000 $ après impôt, là, Yannick. Là, c'est des années de travail, ça, là, des heures, oui. Là, des journées. Alors, moi, ça me dépasse, mais c'est un beau cas. Est-ce qu'éventuellement, les gens vont commencer à comprendre qu'il y a des crosseurs sur Internet, qu'il y a des fraudeurs, qu'il y a des bandits, et il y en a beaucoup plus sur Internet qu'à l'épicerie. Alors, à un moment donné, moi, j'en reviens pas. À chaque fois, je lis ça, puis je me dis, ben, c'est quoi? C'est le phénomène amoureux, c'est la proximité. Les gens seuls, des gens qui s'ennuient, des gens qui cherchent l'amour, et ça passe par Internet souvent, mais oui, l'amour, mais peut-être pas 30 000 piastres, hein?
Hein? Ben oui, ben tu sais, moi j'ai vu plusieurs cas dans l'actualité passée, mais ça impliquait des gens très âgés qui étaient autour de 85-90 ans puis qui rencontraient une belle Africaine de 22 ans, 23 ans, qui était toute jolie puis qui était bien intéressée à eux autres, pas nécessairement pour l'argent, mais juste pour sa personnalité. Et là, les gens étaient tombés en amour avec ces jeunes femmes-là sur le continent africain, voulaient les amener au Canada. Puis là, ben il y avait un scénario qui était écrit d'avance sur toutes les péripéties que cette pauvre Africaine-là allait subir pour venir voir son amoureux au Canada, incluant une arrestation des policiers. On lui demande un 500 $ ou un 2000 $ pour la libérer rapidement. « S'il vous plaît, chérie, envoie-moi l'argent à telle adresse courriel pour que je puisse transférer l'argent aux policiers par la suite. » C'était vraiment des personnes qui étaient très âgées qui se faisaient avoir là-dedans. Là, ce qui est paniquant, Maître Bellemare, c'est que tout le monde est susceptible de se faire avoir tôt ou tard par Internet. Mais je vais vous avouer une chose. Si un jour Céline Dion m'écrit sur mon Messenger, à moi personnellement, je vais sentir l'arnaque.
Ben oui, c'est sûr. Mais tu vois, là, c'est progressivement que ça s'est passé. Parce qu'au début, Stéphanie s'est fait demander par le supposé grand corps malade 100 $ pour une association caritative française qui s'appelle l'Orphelinat national du chemin de fer. Alors là, elle a douté, mais elle a envoyé 100 $. Ça, c'est comme quelqu'un qui te dit, écoute, Yann, il y a une bonne cause là, de ci, de ça. Peux-tu envoyer de l'argent? Peux-tu acheter un billet? Ça se fait, c'est pas trop compliqué. Mais à partir de ce moment-là, l'argent n'a pas été envoyé directement à l'association, mais est envoyé à un ami. Puis elle, on dit dans l'article, elle sourcille, doute, mais s'exécute pour 100 $. C'est pas si pire, mais à partir de ce moment-là, il y a quand même un transfert bancaire qui se fait. Il y a des informations nominatives, il y a des possibilités de retracer le compte de banque et de donner des informations sensibles sur ton état bancaire. Par la suite, mais là, c'est le fils, un jeune garçon qui semble être le fils de grand corps malade, qui est perdu, qui a besoin d'argent. C'est quoi cette affaire-là? Il n'est pas capable de payer pour son fils. Alors là, il y a encore là des sommes d'argent qui sont envoyées et là, il y a un montant de 30 000 $ qui finit par sortir. Écoute, moi, j'hallucine. Je me dis, c'est incroyable, mais il y a un phénomène social qui se passe et j'en parlais avec des amis psychologues en fin de semaine, ce genre de situation-là, puis les gens me disaient, on me disait que les gens étaient malheureux et les gens étaient seuls, il y a beaucoup de gens seuls, il y a beaucoup de gens malheureux, des gens qui sont malheureux en amour, qui cherchent des contacts sociaux, des contacts avec d'autres personnes, des contacts amoureux, et ça donne ça. Alors, c'est un phénomène très particulier, évidemment, qu'on ne voyait pas il y a 30 ans, mais là, on est là-dedans, puis il faut croire, avec la répétition de cas semblables qui sont portés à notre connaissance et qui sont dramatiques avec des sommes considérables, que c'est pas tout des cocos, là. Il y a des gens honnêtes, mais de bonne foi là-dedans qui se font prendre. Alors, soyez extrêmement prudents.
Ouais. Je me souviens d'une entrevue à LCN, c'était Denis Lévesque qui accueillait un homme de 75-80 ans qui avait perdu autour de 70-80 000 $. Puis Denis Lévesque lui avait demandé, mais à partir de quel moment vous avez commencé à comprendre que c'était une fraude? Puis lui, il a dit, à partir de 25-27 000 $, là, je savais que c'était une fraude. Il a toujours bien envoyé jusqu'à 80 000 $ à cette dame-là qui n'existait pas. Là. Il y a eu énormément de reportages. Je pense que c'est avec vous qu'on en parlait la semaine dernière. TVA qui avait été en Afrique pour rencontrer ces fameux jeunes brouteurs, donc des jeunes, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, qui sont formés dans des cafés Internet pour hameçonner les gens qui sont au Canada et aux États-Unis. Il semblerait que c'est un jeu d'enfant. Puis c'est tellement un jeu d'enfant que même les enfants réussissent à tromper les madames et les messieurs dans ces dossiers-là. C'est des fraudes amoureuses. Ça doit être catastrophique de se rendre compte que ce qu'on croyait être vrai, c'est-à-dire notre amoureuse ou amoureux dans un autre pays, c'est un tissu de mensonges. Puis en plus, derrière ça, il y avait une organisation criminelle, puis c'était des enfants qui ont parlé, Maître Bellemare. Ça doit être assez honteux quand on se rend compte de ça. C'est pas la première des choses qu'on va se vanter dans notre famille,
Ouais, alors, il y a peut-être des endroits où on peut rencontrer l'âme sœur ailleurs que sur un site inconnu ou de la part de quelqu'un qui nous approche de façon spontanée comme ça. Écoute, faut faire attention parce que
Ouais.
moi, j'en reviens pas.
On souhaite de l'amour à tout le monde, Maître Bellemare. Tout le monde,
Oui, c'est ça.
mais.
Faut trouver l'amour ailleurs que
Exact.
chez Grand Corps Malade.
Puis si vous ne voulez pas vous faire avoir, adoptez un chien, il ne vous abandonnera jamais.
Exactement.
Maître Bellemare, ça a été un plaisir pour les gens qui veulent en savoir plus sur Marc Bellemare, bellemareavocat.ca, spécialiste en dossier de SAC, d'IVAC, de CNSST. Je vous souhaite de passer un bon lundi soir, de même qu'aux auditeurs, puis on se reparle lundi prochain.
Merci beaucoup. Bonne semaine, tout le monde.
Bye bye, merci.
Marceau, le soir. Le soir.
Le Collège François de Laval t'invite à vivre un nouveau chapitre de ta vie. Inscris-toi dès maintenant au collègefdl.ca et composons ton histoire.
C'est le moment idéal pour changer de véhicule. Chez Marlin Chevrolet Buick GMC, profitez de 0% de financement sur tous nos modèles 2025. Que vous rêviez d'un Chevrolet Trax, d'un GMC Sierra ou d'un élégant Buick encore GX, obtenez le meilleur taux. 0% de financement, c'est imbattable. Passez chez Marlin Chevrolet Buick GMC au 2145 rue Frank Carrel dès aujourd'hui et repartez au volant de votre nouveau 2025 sans attendre.
Envie d'un solarium ou d'une véranda? Chez Moreau PRS, nous servons les deux rives depuis près de 40 ans. Faites confiance aux meilleurs. Découvrez les produits SunSpace Sunrooms pour un confort exceptionnel. Passez nous voir ou visitez moreauprs.com.
Jusqu'au 31 octobre, économisez gros chez Pièces d'auto économiques. Obtenez 10% de rabais sur les disques de frein de première qualité Brake Max et 15% sur les essuie-glaces Bosch Clear Advantage. Pièces d'auto économiques, le leader au Québec avec 9 magasins et 5 centres de distribution. Pièceséconomique.com.
Un nouveau joyau voit le jour à Québec. La Perle. Condo locatif. Livré le 1er juillet 2026 et soigneusement intégré au quartier Mosaïque. La Perle offrira des condos locatifs à l'ambiance et au design contemporain où chaque détail a été pensé pour vous. Pour découvrir ce trésor naturel qui prône l'art de vivre en plein cœur de Le Bourgneuf et pour obtenir votre privilège de réserver votre unité, rendez-vous sur vivrelaperle.com dès maintenant. La Perle, un joyau de condos locatifs à Québec.
Davy, le plus grand chantier naval du Canada, recrute activement pour plus de 1000 postes. Peintre, assembleur mécanique, électricien, contremaître et bien plus. Avec un carnet de commandes rempli jusqu'en 2040 et des conditions de travail solides, ose le grandiose pour ta carrière. Postule à davyrecrute.ca.
À Télé-Québec, le mercredi 20h, une époque formidable, animée par Stéphane Bureau.
On est nul à chier en Amérique du Nord avec les émotions.
Déjà, je sens que ça vous parle.
S'exprimer.
Je trouve que notre époque, elle est inculte, elle est illettrée, elle ne s'intéresse qu'à elle-même.
Questionner.
Il y a quelqu'un qui lève la main.
Je suis d'accord avec un argument de mon adversaire politique.
Échanger.
Wow! Ça doit faire 20 minutes que j'ai envie d'intervenir puis de sauter dans l'arène.
Aller au-delà des préjugés avec une époque formidable, mercredi 20h à Télé-Québec.
Pour joindre la gang en ondes par téléphone 780-1021, texto 971-1021.
Boulevard 1021.
Si vous voulez faire avancer le monde, on a le métier pour vous. Si vous voulez faire avancer votre carrière, on a aussi le métier pour vous. Être chauffeur au RTC, ce n'est pas seulement avoir un rôle clé pour la mobilité durable à Québec. C'est aussi un salaire de base débutant à 32 et 35 $. En plus, le RTC s'occupe désormais des frais de formation pour l'obtention de permis de classe 2. Postulez pour devenir chauffeur d'autobus dès maintenant au rtcquebec.ca/carrière. Au RTC, on fait avancer le monde.
Envie de changer de carrière?
Vos ados hésitent sur leur programme d'études?
Des questions sur le marché du travail?
Ne manquez pas la 31e édition du Salon Carrière Formation de Québec au Centre de Foire Expocité. Explorez, avec près de 150 exposants, toutes les possibilités pour votre avenir professionnel et vos études dans une expérience immersive et interactive.
Venez sans frais. Des opportunités à saisir. Un avenir à construire.
On vous attend du 16 au 18 octobre.
Rendez-vous sur saloncarrièreformation.com.
Pour un garage de quartier fiable et accessible à Shannon, va chez Mécanique Lapointe. Pour un service à la clientèle exceptionnel, c'est chez Mécanique Lapointe. Pour un service mécanique hors pair et une expertise en pneus, tu commences à t'en douter, hein? Va chez Mécanique Lapointe. Prenez rendez-vous dès maintenant.
Ne manquez pas la grande vente Milwaukee d'Outils Plus, le plus gros événement d'outils à Québec, jeudi 9 octobre, au Centre de Foire. Plus d'un million d'inventaires d'outils Milwaukee écoulés, jusqu'à 60% de rabais. Outils extérieurs sans fil, batteries, Packard, tout y est à des prix jamais vus. Les 100 premiers clients reçoivent 100$ en cadeau à l'achat de 250$. Démo, essais d'outils, entrée et stationnement gratuit. La grande vente Milwaukee, une seule journée, le 9 octobre de 9 à 21h au centre de foire de Québec.
Silence, puissance, confort. C'est ça le Volkswagen ID.4 2025. Ce mois-ci, conduisez électrique et profitez de 5000$ de rabais et d'un financement à 0% pendant 60 mois. Oui, oui, 0% d'intérêt. Et c'est sans oublier la subvention gouvernementale de 4000$. Je vous le dis, l'électrique n'a jamais été aussi accessible. C'est le temps d'en profiter. N'attendez plus et passez chez Laval Volkswagen pour essayer l'ID.4 2025. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968.
Cet automne, Boulevard te tient informé toute la semaine.